cuando te esté yo va a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. La muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah.
Voy a 180 porque suena racimiento. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Gabi, Gabi, Gabi. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey.
Vous êtes au cœur de la nuit 8FM. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Intelligence artificielle. Vous avez tous déjà entendu ce terme au moins une fois, peut-être dans les médias au détour d'une conversation, encore dans votre série préférée, mais est-ce que vous savez précisément ce que c'est? Pas si sûr. Salima Benhamou est économiste au département Travail-Emploi de France Stratégie et spécialisée dans l'IA. Avec elle, on retourne aux origines de l'intelligence artificielle.
Alors, les fondements de l'IA remontent au début de l'informatique dans les années 40-50, avec de nombreuses méthodes différentes dont le but était de reproduire des fonctions cognitives par l'informatique. Et en fait, le terme intelligence artificielle a été inventé en 1956 par John McCarthy, qui est l'un des pères fondateurs du domaine de l'IA avec d'autres chercheurs. Et si les principes de l'IA remonte loin, un palier significatif a été franchi il y a environ une dizaine d'années, et c'est une branche de l'intelligence artificielle appelée l'apprentissage automatique, donc le machine learning, qui a fait des progrès spectaculaires, en particulier dans le domaine du deep learning, qui implique l'utilisation de réseaux neuronaux artificiels. Et c'est cette technique d'apprentissage qui a rendu possible, grâce notamment à l'accès de grandes bases de données, grâce à une plus grande performance aussi, des capacités de calcul et de stockage des données, qui explique en fait les progrès récents de l'intelligence artificielle. Et ça a permis son intégration dans un grand nombre de processus de production qui nécessitaient auparavant l'intervention humaine. Et donc l'automatisation de tâches qui dépendent par exemple de compétences perceptuelles telles que la vue, telles que l'audition, qui semblent naturelles pour nous, pour l'humain, étaient jusqu'à un passé récent hors de portée des machines.
Et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et des technologies plus anciennes comme l'ordinateur par exemple?
Ce qui change aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle repose sur un mécanisme d'apprentissage où l'accumulation des données, parce que c'est son moteur, permet l'amélioration continuelle des dispositifs. Et donc, c'est une machine qui évolue dans le temps, en fonction de la qualité des données, évidemment, et de l'accumulation, surtout des données qu'on lui apporte. Et aujourd'hui, ces domaines d'application sont assez impressionnants. Ça couvre un grand nombre de secteurs. Pour vous donner quelques exemples, il y a le secteur de la santé, la banque, le transport, la logistique ou encore l'industrie, pour ne citer que ces secteurs. Et donc, ces progrès récents dans le domaine de l'IA et l'étendue de ces domaines d'application suscitent beaucoup d'inquiétudes et soulèvent également des questions assez légitimes, parmi lesquelles l'intelligence artificielle constitue-t-elle une menace ou une opportunité sur le marché du travail? Est-ce qu'on doit s'attendre à une destruction massive des emplois si la machine peut réaliser en fait des tâches traditionnellement réalisées par l'humain? Ou même, est-ce que le travail va se transformer? Dans ce cas, quels sont les impacts possibles sur l'évolution des métiers, des compétences ou encore les conditions de travail?
Mais l'intelligence artificielle, elle sert à quoi? Quel apport à la société? Est-ce qu'on l'utilise au quotidien, par exemple?
Alors, est-ce qu'on l'utilise quotidiennement? Pas vraiment. Il y a des briques d'IA, par exemple, dans les chatbots, dans votre smartphone aussi, dans des objets connectés. Mais ça reste quand même, dans de nombreux secteurs, encore une potentialité. plus qu'une réalité. C'est-à-dire que c'est clair, l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès dans ses techniques d'apprentissage, mais son déploiement dépend pas uniquement de ses capacités technologiques, ça dépend aussi d'autres facteurs liés à la réglementation, liés à la qualité des données, liés à l'adéquation aussi avec les compétences, puisqu'on a besoin aussi de compétences particulières pour pouvoir utiliser ce type de technologie. Ça dépend également des modalités de déploiement et des besoins et des attentes des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, on réalise une évaluation à partir de cas d'usage d'intelligence artificielle dans différents secteurs d'activité, ici à France Stratégie. Et en fait, on se rend compte hein, quand même que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a des entreprises qui sont encore au stade d'expérimentation, en fait. C'est-à-dire qu'elles expérimentent, mais elles n'ont pas encore totalement généralisé ce type de technologie. Et ça s'explique par des contraintes et des éléments de contexte qui ne leur permettent pas de pouvoir tirer pleinement profit encore de ce type de technologie. Donc voilà, on en parle beaucoup. Ça veut pas dire que c'est évidemment, ça soulève des enjeux très importants en matière sur le marché du travail. On peut y voir, hein, certains observateurs notamment voient l'IA comme une opportunité économique grâce à une meilleure optimisation des processus de production, à une baisse des coûts hein, due à l'automatisation des opérations. Et d'autres, au contraire, la considèrent comme une véritable menace pour l'emploi avec la disparition programmée de pans entiers d'activités menaçant de nombreux métiers, des métiers qualifiés, comme des juristes, des auditeurs, des médecins, par exemple, ou même des métiers peu, voire pas qualifiés. Mais en fait, dans la réalité, entre ces deux scénarios, ces deux visions extrêmes, il n'y a pas de consensus qui se dégage aujourd'hui. Et je me permets de rappeler, hein, il y a beaucoup d'études, qui avaient avancé l'hypothèse d'une automatisation massive des tâches existantes par de l'IA, et qui pouvaient mener, par exemple, à la destruction de près de la moitié des emplois au cours de la prochaine décennie aux États-Unis, comme dans d'autres pays industrialisés d'ailleurs. Donc ça, c'était une hypothèse une prédiction qui avait été formulée en 2013 par deux chercheurs. Et en fait, cette prédiction reste encore une prophétie. On est en 2013 et c'est pas ce que nous observons aux États-Unis. Et puis il y a d'autres études aussi hein, qui aboutissaient à des prédictions beaucoup plus faibles, allant de 10 à 15% des métiers automatisables. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'incertitudes sur l'impact quantitatif de l'intelligence artificielle sur le niveau d'emploi. Et ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a des limites méthodologiques déjà de ces études, parce que l'IA reste encore une potentialité et on ne peut pas, si vous voulez, on n'a pas encore d'enquête statistique à très grande échelle qui notamment sur le machine learning, qui permettrait d'évaluer l'impact de l'IA sur le niveau d'emploi. Aucun système d'intelligence artificielle dans le monde, par exemple, a entraîné la disparition des médecins. En revanche, le système Watson, qui avait suscité beaucoup d'emballement médiatique, qui est un système en fait qui visait à faire du diagnostic thérapeutique et de la proposition de protocole thérapeutique, ce système n'existe plus. Et n'a non seulement pas remplacé les radiologues, mais lui, en revanche, n'existe plus. Donc voilà, donc il y a beaucoup de buzz, il y a une absence de consensus, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ça suscite beaucoup d'inquiétudes et de fantasmes autour de l'IA. Ouais.
Salima Benhamou, merci. Je rappelle que vous êtes économiste au département Travail-Emploi de France Stratégie, spécialisée dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle auquel nous consacrons toute une série de reportages et d'interviews cette semaine. Des articles et des podcasts sont disponibles sur notre site.
La nuit sur 8FM, on passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
C'est l'un des sujets qui fait l'actualité ces derniers mois, l'intelligence artificielle. En cause, l'utilisation de ChatGPT par des étudiants pour entre autres tricher lors d'examens en distanciel ou encore pour écrire des exposés. La question de l'utilisation de cette technologie dans notre quotidien a donc attisé toutes les attentions. L'intelligence artificielle qui fait depuis quelques années l'objet de nombreuses nouvelles formations. C'est le cas du groupe GEMA basé à Paris depuis 2019. Elle a ouvert plusieurs campus dédié à l'IA dans la capitale, mais aussi Lyon, Nantes et en septembre dernier à Bordeaux. Gad Chetboun est le directeur pédagogique du groupe GEMA.
Le groupe GEMA existe depuis 2017 avec une première formation, première école qui est l'ESI Business School, l'école de management et de développement durable, et en 2019 la création de l'IA School, donc une formation sur le management et l'intelligence artificielle. Le point commun au sein du groupe GEMA, c'est de créer des formations et des écoles hybrides avec à chaque fois, dès la première année, une équivalence, un équilibre entre le management, la partie école de commerce et le domaine de spécialisation, donc dans le cadre de l'IA School, l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de former de Bac plus 1 à Bac plus 5 des chargés et des chefs de projet data et développement de projets en intelligence artificielle.
Et l'intelligence artificielle, un domaine de plus en plus employé en entreprise et pas seulement dans le domaine de la robotique.
C'est bien évidemment rendu compte que c'était un domaine qui allait être de plus en plus en tension, sur lequel les entreprises allaient devoir être réactive, allait être sensibilisée à l'outil de l'intelligence artificielle. C'était très connu, plutôt c'était un petit peu un côté fantasmique sur la partie robot, sur la partie humanoïde, et il y a une utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de ce qu'on appelle les entreprises retail, donc à la fois au niveau du marketing, au niveau de l'aspect commercial et des activités en tout genre. Alors, on va distinguer véritablement trois axes de formation. Le premier, qui est l'axe de management. Donc, on va avoir toutes les composantes de marketing, de commerce, de communication, pour justement pouvoir, et de finance, pour pouvoir piloter un projet, piloter une activité, piloter une entreprise. Ensuite, il y a l'axe, bien évidemment, lié à l'intelligence artificielle, lié au data. Donc, on va y apprendre toutes les notions de mathématiques, de statistiques, toutes les notions de probabilité, et bien évidemment, les langages de programmation. On y retrouve les plus connus Python et R pour justement mettre en place du traitement de données. Cette notion de big data qu'on retrouve notamment en banque ou en marketing. Et puis, toute la partie algorithmique, justement pour pouvoir accéder au métier de ce qu'on appelle data scientist. Et le troisième axe, c'est véritablement l'aspect soft skills, de développer aussi des professionnels qui vont pouvoir s'intégrer au monde de l'entreprise et développer cette dimension un peu plus souple, un peu plus molle qu'on retrouve sur le comportement professionnel en entreprise.
L'IA School ouvre ses portes à plusieurs profils.
En fonction de l'année dans laquelle ils intègrent, on a un petit peu tous les profils. Hein. On a celui qui a envie de développer ses connaissances en intelligence artificielle et qui va venir se former dès la première année. Donc, il va apprendre les probabilités, qui va apprendre les statistiques et qui va arriver jusqu'à des fonctions de data analyst, data scientist. Et puis, on a la personne qui a un bon background scientifique, voire même un très bon niveau de programmation et qui vient justement acquérir toutes les notions de management de projet. Et puis, on l'espère, celui qui est un peu mixte et qui vient développer ces deux notions en même temps, ce côté hybride, pour prendre les fonctions que je vous disais de direction et de pilotage de projet et d'entreprise. Et ceux qui sont au sein de l'IA School ont quand même une vision très réaliste de l'utilisation, de l'exploitation de l'intelligence artificielle et sont sortis des clichés que vous évoquiez ou que j'ai évoqué tout à l'heure, ce côté un peu robot humanoïde qui va venir prendre le contrôle de la planète. Je pense que justement avec la vulgarisation et puis la mise à disposition d'un certain nombre d'outils, quand on voit certains chatbots sur les sites internet de grandes institutions ou quand on voit certaines applications de transformation d'images, justement le public et l'étudiant qui vient de nous rejoindre comprend tout le potentiel de l'intelligence artificielle et son exploitation.
Car le but n'est pas de fantasmer, mais bien maîtriser au mieux cet outil pour faciliter notre quotidien.
C'est vraiment de prendre l'intelligence artificielle comme un outil capable d'améliorer le quotidien, capable de venir œuvrer. On a une autre formation liée au développement durable, donc peut-être venir œuvrer sur des économies d'énergie. Donc voilà, il y a une utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité. Demain, tous les secteurs d'activité vont être touchés par cette intelligence artificielle ou par une intelligence artificielle qui va venir, encore une fois, optimiser, améliorer le quotidien.
Pour Gadget Boon, les craintes autour de l'intelligence artificielle doivent être apaisées.
Ça doit être et rester un outil qui va venir faciliter le quotidien du professionnel et le quotidien de tout un chacun. On voit bien évidemment l'explosion des voitures. Je pense notamment à la marque Tesla où on parle de voitures autonomes qui est déjà un grand pas en avant, mais on voit également justement tous les outils, je disais tout à l'heure, de chatbot. On va pouvoir venir améliorer l'apprentissage. On parle d'apprentissage en intelligence artificielle. On va améliorer l'apprentissage des recherches, on va améliorer l'apprentissage de la réalisation d'un certain nombre d'outils, donc pouvoir gagner du temps. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de le faire au sein de l'IA School et au sein du groupe GEMA, ne pas déshumaniser le rôle de l'opérateur qui vient justement créer cette intelligence artificielle. En tout cas, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous.
Et pour continuer à maîtriser cette intelligence artificielle, le président de l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, Bruno Sportis, appelait dans une tribune parue le 29 mars dernier dans le journal Le Figaro, le gouvernement français à renforcer les efforts dans la formation, la recherche et l'innovation autour de ce sujet à long terme.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM.
You were so
Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur 8FM.
L'intelligence artificielle et l'environnement. À quel point est-elle consommatrice et est-elle positive ou négative pour la planète ? C'est l'une des questions majeures qui entoure notre utilisation du numérique aujourd'hui, alors que le digital a littéralement bouleversé nos modes de consommation et peut donner l'impression d'être beaucoup moins polluant que nos anciennes méthodes, en raison notamment de son aspect dématérialisé. Mais l'impact environnemental du numérique n'est pourtant pas à négliger. On considère qu'il représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors dit comme ça, ça paraît peu, mais ce chiffre reste non négligeable, d'autant qu'on peut considérer que la pollution liées au numérique tend à augmenter en raison par exemple de l'apparition et de la démocratisation des intelligences artificielles très gourmandes d'un point de vue énergétique. Mais avant d'entrer dans le détail de la balance bénéfice-risque des intelligences artificielles sur notre environnement, il semble nécessaire d'expliquer concrètement en quoi le numérique est-il polluant. Frédéric Bordage est le fondateur du collectif Green IT, une association qui tente de développer un avenir meilleur pour notre civilisation au sujet du numérique.
L'intelligence artificielle, c'est finalement de l'informatique ou du numérique comme le reste du numérique. Donc on a des ordinateurs, des serveurs, des systèmes pour stocker des données. Finalement, on va utiliser des réseaux de neurones numériques qui vont fonctionner sur des serveurs qui vont faire des calculs et qui vont donc devoir être fabriqué, ce qui va avoir un impact environnemental lorsqu'on regarde l'intelligence artificielle, c'est ce qui matérialise, au sens propre du terme, l'intelligence artificielle. Ce sont donc tous les équipements numériques, les serveurs, les bêtes de stockage, les équipements réseau, les disques durs, etc., qui vont permettre donc de faire des calculs sur des données. Et donc, il faut fabriquer ces équipements, ça va avoir un impact environnemental assez important. Et puis après, il faut alimenter en électricité ces équipements lorsqu'on les utilise. Et la production de l'électricité, à son tour, va avoir des impacts environnementaux. Et enfin, en fin de vie, lorsque les équipements deviennent obsolètes, bien, il va falloir les dépolluer, éventuellement, si on y parvient, les recycler. Et si tout cela n'est pas fait dans les règles de l'art, on va induire en fin de vie, donc lors de cette troisième étape, à nouveau des impacts environnementaux.
L'impact environnemental du numérique est donc très concret et surtout, il pollue à plusieurs niveaux. L'intelligence artificielle fait partie intégrante du numérique et elle aussi a donc un impact sur le climat.
Ce qui va avoir le plus d'impact au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont les calculs, c'est-à-dire le fait d'entraîner l'intelligence artificielle qui au début est bête et inexpérimentée. Il va falloir l'entraîner, c'est-à-dire lui faire faire des analyses sur un très grand corpus de données, donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de données. Donc on va faire des millions de fois le même calcul pour entraîner l'intelligence artificielle, renforcer ce qu'on appelle le réseau de neurones. Et donc ce sont d'abord les calculs réalisés sur des serveurs qui vont concentrer les impacts parce qu'il faut beaucoup de serveurs, beaucoup de microprocesseurs qui vont faire beaucoup de calculs. Et donc on a autant la fabrication de tous ces microprocesseurs que leur consommation en électricité qui vont consommer de l'électricité. Le fait de stocker des données et de faire des analyses sur beaucoup de données, c'est vraiment l'analyse en elle-même qui impacte. Ça n'est pas le stockage de la donnée. Le stockage de la donnée, c'est absolument un détail.
Car il y a effectivement une croyance, selon Frédéric Bordage, qui consiste à dire que la principale cause de la pollution liée au numérique provient des data centers, en français, des centres de données. Sauf que la réalité est un petit peu plus complexe.
Les impacts environnementaux du numérique, aujourd'hui, ils sont constitués principalement de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. 52% des impacts du numérique en France, des impacts environnementaux, c'est l'épuisement de ressources non renouvelables. 28%, ce sont les radiations ionisantes qui vont avoir des impacts sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et les émissions de gaz à effet de serre ne contribuent qu'à hauteur de 11% de l'empreinte du numérique en France. Maintenant, si on prend ces chiffres et qu'on les projette à l'échelle mondiale, le numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. Donc 4%, ça peut paraître peu, mais quand on projette les émissions de gaz à effet de serre associées à nos usages numériques sur notre forfait ou notre budget annuel soutenable, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre ou de ressources qu'on peut émettre ou de ressources abiotiques qu'on peut puiser dans la nature pendant un an à notre échelle individuelle, eh bien on se rend compte que le numérique, c'est déjà 40% du budget annuel soutenable d'un Français en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Un nombre qui n'est vraiment pas à prendre à la légère.
C'est énorme, 40% de notre budget. Imaginez que juste avec nos usages numérique quotidien, on grignote, on mange 40% de notre budget, avec les 60% restants, il faut se loger, se soigner, se vêtir, s'éduquer, se déplacer, travailler. On comprend bien que c'est 10 fois trop, littéralement.
D'autant que l'impact environnemental du numérique n'est a priori pas près de réduire. Une étude commandée en 2019 par le Sénat pointait une très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre liées à notre usage du numérique d'ici quelques années. Étude qu'il faut tout de même remettre en perspective pour Frédéric Bordage.
Cette étude du Sénat, elle est pas très solide. Elle pointe que les data centers. Il y a une étude plus récente qui a été publiée par l'ADEME et l'ARCEP, qui est une analyse du cycle de vie. Donc c'est vraiment une étude très sérieuse, hein, et qui montre que 2/3 à 3/4 des impacts environnementaux du numérique sont liés d'abord à nos terminaux à nous, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, etc. On a 10 à 25% restants qui sont dans le réseau et le reste dans les data centers. Donc les fameux data centers, ces grands centres de données dans lesquels on a des serveurs qui font des calculs et qui on stocke des données, sont souvent très médiatisés, pointés du doigt, mais c'est finalement pas là qu'on a les impacts, c'est bien du côté de nos terminaux. Donc ça, c'est déjà une mise en perspective qui me semble importante. Et après, quand on regarde à l'intérieur des centres de données, ce qui va constituer le gros des impacts, ce sont les calculs. Et là, pour le coup, l'intelligence artificielle est très consommatrice de calculs et va contribuer effectivement à l'augmentation des impacts environnementaux associés aux centres informatiques, aux fameux data centers.
Alors, qui faudrait-il cibler dans de potentielles campagnes de sensibilisation, par exemple? Si on suit cette étude commandée par le Sénat, ce sont les ménages, donc toute la population, qu'il faudrait alerter en priorité. Mais pour Frédéric Bordage, il y a d'autres entités à cibler.
Je pense que les acteurs qui sont les plus importants à sensibiliser, ce sont d'abord les éditeurs des services numériques que nous consommons, nous, en tant qu'auditrices ou auditeurs. Puisque finalement, on n'a pas trop le choix. On nous impose en fait de l'intelligence artificielle qui est injectée, intégrée directement dans les services interactifs qu'on consomme lorsque on écoute de la musique et qu'on a une suggestion pour un nouveau morceau, etc. Donc l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui intégrée dans le quotidien numérique, on va dire, des Français et des Françaises. S'il y a un public qu'on devrait sensibiliser, ce sont d'abord les éditeurs de ces services numériques pour ne pas utiliser inutilement de l'intelligence artificielle, ce qui se traduit évidemment par des impacts environnementaux et sanitaires négatifs à court terme et pas toujours absolument indispensable. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension. N'oublions pas que le numérique est une ressource non renouvelable, qu'elle est en train de s'épuiser à très grande vitesse et que d'ici quelques décennies, nous n'aurons plus la capacité à l'échelle de l'humanité de fabriquer du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes à l'heure du choix et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour doper des ventes de produits accessoires ou gadgets, ou est-ce que c'est pour détecter des cancers? On est vraiment à l'heure d'un choix où l'humanité doit choisir ce qu'elle souhaite faire avec les dernières réserves de numérique disponibles, et donc évidemment ce qu'elle souhaite faire avec l'intelligence artificielle. Nous devrions déjà arbitrer nos usages.
Voilà pour l'aspect négatif de l'empreinte climatique liée à l'intelligence artificielle et plus globalement au numérique. Mais ces outils peuvent-ils être aussi bénéfiques dans le combat face au changement climatique? Frédéric Bordage en est en tout cas convaincu.
L'intelligence artificielle, elle est souvent intéressante pour confirmer des intuitions d'être humain. Il y a quand même rien de plus performant qu'un cerveau humain qui est à des années-lumière plus performant que la plus performante des intelligences artificielles. N'oublions jamais cette mise en perspective qui est importante. Par contre, quand on a des très grands corpus de données, des millions de données à analyser, un être humain n'est pas capable de le faire avec son cerveau, ou en tout cas ça prend beaucoup de temps. Et donc l'intelligence artificielle, elle va être intéressante pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, donc c'est-à-dire des petits artefacts statistiques qui sont pourtant des signaux intéressants, précurseurs de quelque chose. C'est comme ça, par exemple, qu'on est capable de détecter, de mieux détecter que des oncologues, des cancers, parce que quelques pixels sur un écran géant sont un signal faible. De la même façon, on va pouvoir appliquer ce type de situation dans le domaine de la protection de l'environnement pour détecter des signaux faibles qui vont être par exemple des précurseurs du déclenchement d'un basculement dans un équilibre d'un écosystème. Et donc l'intelligence artificielle, elle est surtout intéressante pour faire des calculs sur des très grands enjeux de données et pointer du doigt des problématiques qu'on n'a pas su détecter avec notre cerveau humain ou confirmer des intuitions qu'on a, mais les confirmer de façon objective.
Donc, et plus rapide, du coup, si j'ai bien compris aussi.
Alors, à la fois plus objectivement et évidemment plus rapide, puisque on est capable de faire des milliards de calculs, finalement, en très peu de temps.
Malgré tout, il faut faire attention. C'est en ce sens qu'Elon Musk et plusieurs grands experts mondiaux du numérique ont récemment lancé un appel à stopper la recherche sur les intelligences artificielles. Un appel à prendre au sérieux pour Frédéric Bordage.
Alors, on n'est pas dans un film de science-fiction où, comme dans Matrix, une intelligence artificielle prendrait le contrôle de la Terre. Hein. Le sujet, c'est pas ça. Ce qui est souligné par ces experts, c'est que aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à ne plus être capable de faire la différence entre une production d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle. On n'est plus capable de faire la différence entre une dissertation écrite par une intelligence artificielle et une dissertation écrite par un être humain. On n'est plus capable de faire la différence entre une vraie photo et un photomontage. Et donc, cet appel, il est important. On vient pour la première fois de toucher du doigt un danger qui est celui d'une augmentation considérable potentielle de la désinformation avec, par exemple, l'automatisation de posts sur les réseaux sociaux par des robots qui sont des intelligences artificielles qui sont capables de se faire passer pour des êtres humains, c'est-à-dire passer le fameux test de Turing. L'enjeu d'aujourd'hui, il est de mettre des barrières, des garde-fous pour s'obliger en tant qu'être humain qui créons cette technologie d'intelligence artificielle à identifier les productions, que ça soit du son, de la vidéo, un texte, une image, etc. On devrait dès aujourd'hui s'obliger à taguer, identifier, étiqueter les productions provenant d'une intelligence artificielle pour bien faire la part des choses entre ce qui a été produit artificiellement et ce qui représente la réalité.
Heureusement, pour nous prévenir des intelligences artificielles et de leur impact, aussi bien environnemental qu'éthique, les gouvernements construisent petit à petit un cadre législatif.
On commence à avoir un encadrement, notamment en France, avec la loi REN, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique et qui commence progressivement, petit à petit, à préciser certains types d'usages possibles avec le numérique et d'autres usages qui seront à terme prohibés. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, ça veut dire d'ici 2 ou 3 ans maximum, on commence à voir fleurir des projets de loi pour effectivement encadrer les usages de l'intelligence artificielle, notamment sur des dimensions éthiques, pour garantir que, je pense dans un premier temps au niveau éthique et dans un deuxième temps au niveau environnemental, que cette technologie soit bien au service de l'humanité, qu'elle nous aide à faire face à la situation environnementale qu'on connaît, plutôt que d'accélérer notre perte.
L'intelligence artificielle a donc, pour conclure, de bonnes raisons d'exister dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre ou contre la destruction de la biodiversité. Cependant, elle reste un outil très énergivore, comme le numérique dans son ensemble, et il est donc évident que l'humain doit savoir en tirer profit sans pour autant en abuser. Comme toute ressource, celles nécessaires à l'usage de ces nouvelles technologies ne sont pas illimitées. À nos gouvernements maintenant d'établir une stratégie viable d'un point de vue environnemental aussi bien qu'éthique pour un usage raisonné et surtout utile du numérique. De notre côté, comme pour beaucoup d'autres choses, faisons attention à notre pratique. Voilà pour cet épisode dédié à l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'IA ou que vous vous posez d'autres questions autour de cette nouvelle technologie, rendez-vous directement sur notre site internet. Quant à nous, on se dit à demain pour un nouvel épisode.
Vous êtes au cœur de la nuit. Et on repart en musique sur 8FM.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. De toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. On en est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. Quand je te chante, c'est avec toi que j'admire si tu permets. Crois-moi.
marche à chaque fois. J'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Nah. Ok, j'avoue c'est pas vrai, je le confesse. Je ne suis qu'un homme, c'est normal, faut pas que tu stresses. Et le plus important, c'est que j'ai su reconnaître les mille et une choses qui te rendent complète. Ton charme commence dans le sexe, appuie la rette. Tu souris, tu me parles, c'est assez pour perdre ma tête. Et c'est très sincèrement que je te jure que c'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit et c'est avec classe que je te désire mais dans l'espèce. En tout cas, c'est avec classe que ça marche à chaque fois. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire, mais dans le respect. En tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Et c'est une problématique depuis de nombreuses années dans notre pays. Le recrutement dans les métiers de l'aide à la personne ou encore dans les maisons de retraite est en crise. Dans la métropole de Bordeaux, la ville de Saint-Médard-en-Jalles n'était pas épargnée. Stéphane Apoux, adjoint à la mairie, est en charge de l'économie et de l'emploi.
Donc la problématique, c'est que sur tout le département, mais notamment en France, les gens ne veulent plus travailler dans les centres de santé, ça fait pas recette, ne veulent plus travailler en aide à domicile. Ce sont des métiers qui sont durs, qui sont contraints, avec des timings qui sont compliqués et il manque énormément d'effectifs. Donc quand vous arrivez là-dedans, en général que vous êtes une nouvelle recrue, le turnover est immense et on s'est rendu compte que sur la ville de Saint-Médard, on n'arrivait même pas à en recruter un. Donc même un salarié, c'était très dur à recruter. En se renseignant sur les villes voisines, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable problématique sur ce type de recrutement.
Face à ce problème, il a été décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et développer une initiative inédite.
Alors, ce qui est important d'expliquer, c'est que normalement, les villes n'ont pas la compétence pour s'occuper de l'emploi. C'est Pôle emploi et le gouvernement qui s'occupent de l'emploi en France. Néanmoins, nous, ville de la métropole bordelaise, au début de la mandature, on a décidé de s'occuper de l'emploi parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de nombreuses problématiques, notamment dans les centres de santé. Et on s'est dit que en connaissant notre territoire, connaissant notre écosystème, on pouvait travailler avec Pôle emploi et on pouvait apporter notre pierre à l'édifice.
Et c'est l'organisme de formation formidable qui accompagne les nouvelles recrues. Mais avant cette étape, c'est un gros travail de sourcing qui est mis en place.
On est parti un peu dans l'innovation. Déjà, on a créé une délégation emploi. Nous sommes la seule ville de la métropole à avoir une délégation emploi, c'est-à-dire qui fait de l'audit RH, qui fait du consulting RH auprès de ces entreprises. Nous ne nous occupons pas des demandeurs d'emploi, ça on le laisse à Pôle emploi, mais nous on travaille avec les entreprises. Donc quand nous sommes allés dans nos EHPAD, la problématique c'était la formation, c'est-à-dire que les gens étaient lancés dans la vie active et dans les nouveaux établissements, et puis ils étaient mis en binôme avec des salariés compétents, il n'y avait pas de problème, et qui n'étaient pas formateurs, qui n'avaient pas le temps, qui étaient eux-mêmes contraints dans le temps. Donc finalement on s'est rendu compte que la problématique elle venait sur ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire la réception. Vous recevez un nouveau salarié, si vous ne lui montrez pas le sens de son métier, la mission globale, donc il y avait quelque chose de à la fois de pivot sociétal, c'est-à-dire montrer le sens, montrer que ce métier est un métier qui a du sens, intelligence, où il y a d'énormes valeurs, où vous occupez quand même de nos aïeuls, et tout le monde sera, je pense, conscient que s'occuper des personnes âgées, de nos parents et de nos grands-parents, bah, c'est une chose formidable, et qu'il fallait donner des vraies valeurs à ce métier-là. Donc déjà, bien le vendre sur les annonces, bien l'expliquer. Et puis ensuite, bien former les gens. Et donc pour cela, nous avons mis en expérimentation et nous avons travaillé avec un centre de formation spécialisé qui s'occupe de l'accueil, s'occupe de montrer et fait vraiment un tutorat au millimètre près, c'est-à-dire 3 jours de formation ou 3 fois 7 heures. C'est-à-dire durant toute la journée, vous avez quelqu'un qui vous explique le pas à pas et qui vous fait démarrer la course de l'emploi, c'est-à-dire cette nouvelle embauche, mais dans de très très bonnes conditions. On cherchait pour les aides à domicile et les centres de santé des gens qui avaient des qualifications dans ces métiers-là. Sauf qu'on n'en trouvait pas. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à recruter. Eh bien nous, on n'a pas catégorisé les gens. On s'est dit qu'il y avait des transférabilités de compétences. À l'ère où vous avez plein de gens qui veulent faire des reconversions professionnelles, qui veulent changer de métier, qui veulent donner du sens à leur vie, la crise sanitaire a vraiment fait un basculement sur ça. On a plein de gens qui veulent changer de vie. Eh bien, on s'est dit qu'il y avait, s'ils avaient été bons quelque part, ils pouvaient être très, très, ils pouvaient être bons dans les centres de santé et le travail d'aide à domicile. Donc, on a fait un gros sourcing. Par exemple, je vais vous donner quelques statistiques. Sur la première session, la première promotion, nous avons sourcé 250 personnes. Sur ces 250 personnes, nous avons fait des rendez-vous communs où nous avons tous reçu par petits groupes et leur expliqué quel était le métier. Avant même de parler de ce qu'ils allaient faire, du poste, on a parlé du métier, on a déjà évangélisé, émancipé les gens sur qu'est-ce que c'était ce métier-là et quels étaient les côtés positifs de ce métier-là. Et au fur et à mesure, avec la délégation emploi et puis tous les partenaires, hein, puisqu'on a travaillé avec Pôle emploi, on a travaillé avec les structures, on a travaillé avec le centre de formation, on a réduit l'entonnoir et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait des gens qui étaient complètement adaptables à ces boulots-là. Voilà. Donc, une fois qu'on avait sourcé ces personnes-là, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, on les a accompagnés, on les a formés et on a mis en place des dispositifs d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des mauvais recruteurs et puis des mauvais demandeurs d'emploi. C'est que, en fait, des fois, ils ne parlent pas le même langage. Le demandeur d'emploi a besoin de se sentir un peu baqué, sécurisé, et puis et le recruteur, lui, a besoin de bonnes recrues. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, et c'est ce lien-là que la Ville a fait sur Saint-Médard-en-Jacques. En 6 mois, on a recruté ce qu'on était incapable de recruter en 7 ans. Donc, c'est-à-dire que 25 nouveaux salariés dans les EHPAD et à la DHM, hein, d'aide à domicile, c'était déjà un gros chiffre. Et je vais même vous dire quelque chose de plus fort, c'est que nous sommes en excédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de tellement bien sourcer, on a tellement bien compris ce que voulaient les gens et comment il fallait leur expliquer, que nous sommes en excédent, c'est-à-dire que nous sommes même plus capables d'accueillir les nouvelles recrues et que nous pourrions même en donner ces profils-là aux villes voisines. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Là, par exemple, on a eu 10 profils début janvier qu'on n'a pas pu caser chez nous parce que les établissements ne peuvent pas non plus intégrer comme ça à tout va. Il faut bien le faire. Donc pour bien le faire, ils ne peuvent pas. Donc nous sommes en excédent de recrutement. On a dû arrêter le sourcing et les recrutements. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes la seule ville de la métropole et du département à avoir trouvé une solution qui permet de recruter dans un milieu où on ne pouvait plus recruter.
L'organisme de formation formidable met le pied à l'étrier, mais cette formation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Elle permet de mettre en confiance la personne embauchée et lui donner les clés pour bien faire son travail. Cet accompagnement avec l'organisme de formation a aussi pour but de ne pas surcharger les autres salariés déjà présents dans l'établissement qui n'ont pas forcément le temps de former leurs collègues. Saint-Médard-en-Jalles aurait-elle trouvé la formule magique pour ce problème de recrutement?
Au début, quand on a attaqué ce secteur-là, on m'a dit, monsieur Apoux, avec la nouvelle délégation emploi de la ville de Saint-Médard, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas trouver des solutions là où personne n'arrive à en trouver. Ben, nous y sommes arrivés, c'est-à-dire que nous y sommes arrivés en 6 mois. Et en plus, maintenant, nous sommes en excédent. Donc, nous allons créer bientôt une conférence interville métropolitaine avec tous les CCAS pour déjà transmettre le savoir, leur expliquer, regardez, en faisant ces méthodes-là, en travaillant comme ça, ville, partenaire et structure, on arrive à engager de l'emploi et on arrive à trouver des solutions. Donc déjà, on va transmettre, parce que ça sert à rien de laisser ça, ça met d'arrangeal. On a trouvé un bon processus, eh bien on va faire la passe décisive aux voisins pour qu'ils puissent faire la même chose chez eux. Déjà, premier truc. Et puis deuxième truc, vous avez raison, du moment où on avait trouvé une solution sur quelque chose qui était super compliqué, des métiers qui sont quand même pas faciles, on s'est dit, ben, ça peut faire des bébés, ça peut faire des petits, et on va aller voir les voisins. Et on n'a pas eu besoin de le faire, on a quasiment le Leclerc, de Saint-Médard-en-Jacques. On sait que sur la région, Leclerc est le deuxième centre commercial de la région après Auchan, hein, centre Leclerc de Saint-Médard-en-Jacques. Ils ont un bricomarché, un brico Leclerc. Le brico Leclerc nous a dit exactement la même chose. Nous avons du mal à recruter. Est-ce que vous pourriez nous aider avec votre méthode? Et nous sommes en train déjà de le faire depuis janvier, avec exactement le même processus. Et au moment où je vous parle, il y a déjà eu 10 recrutements qui ont été faits au bricomarché, là où ils n'arrivaient toujours pas eux-mêmes à en faire. Voilà, donc je viens de répondre à votre question. Oui, ça marche. Et ce qui marche, c'est quoi? C'est novateur, et à la fois, il fallait prendre le temps de le faire. C'est prendre du temps avec l'humain, donner du sens au travail, expliquer aux gens où ils sont, valoriser le poste de travail, ne pas avoir une nouvelle recrue en pensant que c'est une variable d'ajustement qui va faire tout ce que personne ne veut faire, parce que ça, il y a rien de mieux que perdre les employés quand vous leur faites faire des choses que plus personne ne veut faire, et bien les former. Et une fois que vous avez mis en place ce processus, alors, il y a beaucoup de partenaires, d'associations de recrutement qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que se dire on va juste former, c'était bien plus simple. Non, il y a tout un processus de changement dans l'entreprise qui s'effectue après cette méthode-là. Donc cette méthode est innovante, elle est déjà donc en fonction au Brico Leclerc au moment où je vous parle, et on va continuer. La délégation emploi a pour objectif d'aller ratisser toutes les entreprises qui ont des difficultés de recrutement.
Bienvenue sur 8FM. Si vous avez trouvé notre sujet précédent intéressant, restez encore, la suite est mieux.
L'intelligence artificielle, entre méfiance et fascination.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié à l'intelligence artificielle. On va se poser cette question aujourd'hui, l'IA constitue-t-elle un risque pour l'humanité? Le patron de Tesla, Elon Musk, pourtant connu pour être téméraire, vient de signer une tribune aux côtés d'une centaine de personnalités du monde scientifique pour demander un moratoire de 6 mois sur le développement de l'IA. Dans le viseur, la version 4 du logiciel désormais bien connu, ChatGPT, qui combine la possibilité maintenant de générer du texte artificiellement créé sur n'importe quel sujet et des images. La crainte, voire émerger des centaines de faux documents et visuels si la technologie n'est pas utilisée à bon escient. Autre crainte plus subjective, de voir les machines un jour remplacer, voire dominer les humains comme dans les films. Mais ça relève du pur fantasme pour Jérémy Méo, senior data scientist au lab EA Loire-Valais.
Alors, l'humain est toujours à la base. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle IA responsable, il y a un des paradigmes qui est que l'humain doit rester dans la boucle. Autrement dit, l'humain doit rester maître de la décision proposée par le système d'intelligence artificielle. L'humain doit pouvoir corriger ce que la machine propose, et cette machine, elle ne peut pas se programmer elle-même. Le système d'intelligence artificielle, il est programmé pour une tâche qui est bien précise. Il est incapable d'étendre son périmètre d'action. Autrement dit, si on crée tout d'abord un système qui est capable de téléphoner, il va pas être capable de faire autre chose que de téléphoner ou que de faire de la conversion de voix en texte. C'est absolument impossible. Donc il y a toujours besoin d'humains pour programmer, et il y aura toujours besoin d'humains pour corriger ce qui se passe, et il y aura toujours besoin d'humains, et ça c'est un peu le côté caché de l'intelligence artificielle, en tout cas d'un point de vue reconnaissance d'image par exemple, on aura toujours besoin d'humains, d'experts, pour annoter les documents que l'on veut faire ingérer à l'intelligence artificielle. Cette notion d'annotation, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est comme ça que les algorithmes sont capables de reconnaître si sur une image vous avez un chien, un chat, une voiture, une trottinette, etc. C'est parce que tout d'abord, vous avez eu des humains qui ont annoté sur chacune des images la présence de chiens, de chats, de voitures et d'avions.
En revanche, l'idée que l'intelligence artificielle remplace un jour l'humain dans certains métiers, ça, ce n'est pas si incongru pour Salima Benamou, économiste au département Travail-Emploi de France Stratégie.
Toutes les activités où le degré de complexité lié à la prise de décision est très forte, ou tout ce qui est lié au contact humain, toutes les activités aussi fondamentalement sociales resteront effectuées ou réalisées par l'humain. En revanche, toutes les tâches qui présentent une forte régularité, basé sur des règles prédéfinies telles que la planification des tâches de contrôle à travers l'identification de fraudes, d'anomalies, tout ce qui concerne aussi la gestion de l'information, la collecte de données, de traitement, ont de fortes chances d'être automatisées ou déclassées par l'IA. Donc c'est pour ça que c'est important de partir des potentialités mais également des limites. Il y a des tâches qui sont fortement exposées et d'autres qui ne le sont pas. Et donc toutes les fonctions de soutien qui sont particulièrement, par exemple, concernées par l'automatisation, donc on peut citer par exemple des secteurs dans le commerce de détail, certaines fonctions de back-office dans le secteur bancaire, dans les assurances ou certaines activités liées aux services juridiques par exemple. C'est quand même des risques qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Hein.
C'est en tout cas bien sur l'emploi que la méfiance concernant l'IA est la plus cristallisée. Dans une étude publiée par le cabinet Mazars en partenariat avec l'Institut de sondage CSA, 38% des sondés voient un impact négatif de l'IA sur l'emploi, 29% en ce qui concerne l'information et seulement 20% d'opinions négatives pour l'utilisation de l'IA dans les secteurs de la santé et de l'environnement. Autre étude, selon le rapport Future of Jobs 2020 du World Economic Forum, l'intelligence artificielle remplacera 85 millions d'emplois d'ici 2025. Toutefois, selon la même source, elle va créer 97 millions d'emplois sur la même période. Et c'est bien une transformation du monde de l'emploi qui semble s'augurer. On écoute de nouveau Salima Benhamou.
Vous savez, on dit souvent que face à l'IA, il faut faire évoluer les contenus pédagogiques dans la formation initiale. Il faut former en continu les personnes pour s'adapter aux technologies. Donc ça, c'est souvent le levier en fait qui est mis en avant dans différents rapports nationaux et internationaux sur l'IA et le travail. Et je pense qu'il y a un autre levier qui est très souvent sous-estimé, à la fois dans les politiques publiques, mais également dans les entreprises. C'est le rôle que peut jouer l'organisation du travail à travers ses pratiques managériales et organisationnelles, qui jouent un rôle mais déterminant sur le développement des compétences et aussi sur la complémentarité humain-machine. Je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour pouvoir tirer profit en fait de toutes les opportunités que peut apporter l'intelligence artificielle pour développer les compétences en continu des individus. Et d'ailleurs, on a montré dans une étude récente à France Stratégie le rôle d'organisation du travail qu'on appelle les organisations du travail apprenantes. On a montré l'importance de ce type d'organisation pour développer les capacités d'apprentissage en continu des salariés et que c'est un modèle qui peut justement apporter les conditions propices à cette complémentarité humain-machine. Et en fait, ce sont des organisations de type apprenante, ce sont des organisations, si vous voulez, ou qui se caractérisent par des pratiques organisationnelles, managériales qui sont très spécifiques. Les salariés, il y a beaucoup, par exemple, de résolution de problèmes complexes que doivent réaliser les salariés. Il y a de l'autonomie, plus d'autonomie. Il y a un contenu cognitif aussi élevé. Les salariés qui évoluent dans ce type d'organisation du travail disent que quasi quotidiennement, ils apprennent des choses nouvelles, ils ont plus d'autonomie. Ils travaillent en équipe pluridisciplinaire et ça, c'est très important aussi, notamment face à l'intelligence artificielle pour pouvoir, si vous avez un data scientist, par exemple, il faut qu'il soit capable de donner du sens métier à des données et donc de discuter avec d'autres métiers pour avoir une bonne intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de production. Et c'est tout ça, en fait, si vous voulez, qui améliore cet environnement professionnel et améliore les capacités d'apprentissage en continu et le développement des compétences. Mais le problème, c'est qu'on est en retard en France. On est en retard en France par rapport à d'autres pays qui ont développé ce type d'organisation du travail. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle par rapport à la diffusion en fait de l'intelligence artificielle, parce que si vous évoluez dans des organisations, par exemple, où vous avez peu de possibilités de vous former en travaillant, vous avez peu d'autonomie, où vous pouvez peu déroger aux règles quand l'environnement l'impose, par exemple, vous n'êtes pas amené en fait à vous poser les questions et à donner du sens aussi aux activités que vous réalisez, eh bien, c'est pas propice, si vous voulez, à pouvoir exploiter cette complémentarité humain-machine.
La France s'est pourtant dotée dès 2018 d'une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Selon la Cour des comptes, son efficacité n'est pas encore avérée, mais elle a salué le signal politique risque fort pour la recherche. En termes de publications scientifiques sur l'IA, la France est deuxième au niveau européen derrière l'Allemagne.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur 8FM pour écouter votre musique préférée.
This ain't Texas, oh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Bienvenue ici, c'est 8FM.